ערב טוב לכולם. ברשות בעלת הבית, ז'נטואטי, כי נו פי אשק פועל וכבוד דתחוס איתי, זה נפה כשושות כיפות הביטוי, זה כשושות כיפות savoir reconnaître et apprécier et remercier. Nous sommes dans la paracha de Vaishlar que nous avons déjà lu et nous allons essayer de comprendre selon notre manière d'appréhender le texte ce que la Torah nous enseigne pour les générations et non pas seulement ce qu'elle dit au niveau du texte. Il faut sortir du contexte, ce n'est qu'un prétexte, pour avancer et pour voir notre vie. Alpi aklal hayadua, nous avons une règle très connue, que nous répétons à chaque fois, ma'ase avot siman labanim, ce que nos pères ont fait dans leurs actions, ma'ase, c'est un signe pour les générations, pour les enfants, pour la construction future. C'est-à-dire que ce qui arrive au père passe dans les gènes, dans la génétique, aux enfants. C'est-à-dire que nous répétons d'une manière collective ce que nos pères ont vécu apparemment au niveau individuel. Parce que vous savez bien que les pères de la nation qui ne sont que trois, ne sont pas des êtres individuels. Bien entendu, ils avaient une vie, mais la Torah ne s'occupe pas de leur vie privée parce que la Torah veut nous enseigner quelque chose. Donc la Torah choisit les sections de vie qui l'intéressent pour faire avancer l'histoire divine. De la même manière qu'on ne va pas raconter chez Moshe Rabbeinu tout ce que Moshe Rabbeinu fait du matin où il se lève jusqu'au soir où il se couche, ça n'intéresse pas en réalité les générations. La Torah va choisir certaines périodes de sa vie, et nous n'en connaissons pas beaucoup d'ailleurs, mais qui font avancer en réalité ce processus. Ça, c'est une règle. La Torah en hébreu se dit megamati, c'est-à-dire qu'elle a un but. Et elle ne sort pas de ce but, elle ne se disperse pas, elle ne va pas nous raconter des choses qui ne servent à rien. Seulement, une prophétie, car la Torah en est une, qui est nécessaire pour les générations, elle va être retenue et écrite. En hébreu, Nevoa shehutzrecha ledorot nishmera, nichteva. Seulement une prophétie qui est nécessaire pour les générations à venir. C'est elle que la Torah met en place et elle enlève tout le reste, tout ce qui n'intéresse pas directement l'histoire du peuple d'Israël, qui est l'histoire d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors cette règle, Ma'aseh Avot Siman Labanim, Keshem Sheyetziato Shel Yaakov Me'eretz Yisrael Haita Siman Lechol Agaluyot. De même que la sortie de Yaakov, que nous avons expliqué la dernière fois, était symbole, synonyme, signe pour toutes les générations, pour tous les exils, quel, chez l'Israël, du peuple d'Israël, ben meshecha historia, durant l'histoire, bien de la même manière, car chazarato shel Yaakov l'Eretz Israël, le retour de Yaakov en terre d'Israël, dans notre paracha, Vaishlach, hi shoresh vesiman lechol ha-geulot. Bien, c'est un signe, c'est une racine pour toutes les délivrances que le peuple d'Israël vivra durant son histoire. Donc si j'étudie en réalité l'histoire de cet homme et de cet exil, et l'histoire de cet homme et de cette délivrance, je peux en réalité comprendre les tenants et les aboutissants de tous nos exils et de toute notre Géoula qui en réalité se fait pas à pas. Je rigole toujours quand certains élèves me disent, tu nous as dit que Pessah dernier, c'était la Géoula, et voilà, Pessah est terminé, on n'a pas vu la Géoula. Okay? Pourquoi je rigole? C'est simplement parce que ça voudrait dire que l'élève n'a pas encore compris ce que représente la Géoula. La Géoula, ce n'est pas un bloc qui nous arrive de l'infini vers le fini. Chaque période amène avec elle une parcelle de cette Géoula. Moralité, à chaque fois, nous sortons un tout petit peu. C'est encore une expression, une facette de notre délivrance. Donc, en réalité, on n'a jamais menti, on n'a jamais raconté d'histoire. Quand la Gemara nous dit, Bemotzei Shmita Ben David va, chaque fois qu'il y a une Shmita qui se termine, bien, Ben David vient, elle ne ment pas. En réalité, il y a une parcelle de Mashiach Ben David qui apparaît, et cette fois-ci, puisque la Gemara le précise, que Motzei Shvit, il y a quelque chose, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Le morceau est beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous traversons, nous montons d'un degré dans le processus de la Géoula. Et comme je le répète tout le temps, la Géoula est telle que les sages nous le disent dans le Talmud de Jérusalem, Kima, Kima, petit à petit, comme le lever du jour. Celui qui est présent au lever du jour peut en réalité rater même le passage, parce qu'il s'habitue au fur et à mesure au jour qui se lève. Et donc on lui dit, nous, t'as remarqué qu'il y a une demi-heure, il faisait nuit noire et que maintenant il fait jour. Il dit, tiens, j'ai même pas fait attention. Pourquoi? Parce que je me suis habitué au fur et à mesure de l'évolution de la lumière à cette lumière. Mais dire aujourd'hui que nous attendons la Géoula, c'est tout simplement se moquer du divin. C'est comme si on demandait si à midi il faisait encore jour. Nous sommes en plein dans la Géoula, personne ne vous a dit que ce serait facile, mais ce sont des parcelles de Géoula qui se révèlent. C'est très loin de la chrétienté où c'est tout un bloc. Un coup c'était là-bas, maintenant c'est ici. Ça n'est pas infantile à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une évolution permanente. Et même lorsque le Mashiach apparaîtra réellement, l'homme, eh bien ce sera encore évolutif. On n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui va en s'améliorant parce que nous tendons vers l'infini et tel qu'il indique par son nom, il est infini. Donc nous sommes dans une perpétuelle évolution, dans un devenir, dans une perfectibilité qui est tout le temps en train de monter d'un étage, et nous devons savoir et apprécier chaque étape dans cette évolution et ne pas voir les choses en noir et blanc. Ce n'est pas un coup noir, un coup blanc. De la même manière que la Neshama que nous avons, ce n'est pas un bloc qu'on a pris du ciel et qu'on a inséré à l'intérieur de nous. Ce n'est pas comme ça. La Neshama continue de me pénétrer au fur et à mesure que je vis. C'est-à-dire qu'il y a un fil qui me relie à la source de la Neshama du peuple d'Israël, et par ce fil coule de l'huile sur le fil qui me fait naître à chaque instant, goutte à goutte. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous avez l'impression que la Neshama était là-bas, elle est descendue dans mon corps, et on attend qu'elle reparte. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de her-der, il n'y a pas de manque de vide. Quand vous versez une bouteille d'eau dans un verre, la bouteille se vide. Dans la spiritualité, dans la Torah, ce n'est pas le cas. Tu restes toujours relié à la source de laquelle la chose est venue. Et en réalité, dans une perpétuelle évolution, tu reçois une part de plus à chaque instant. Ach betzelem ithalech ish. Un homme ne marche que par s'il y a ce goutte à goutte qui rentre en lui à chaque instant. Sinon, il ne pouvait même pas avancer. Moralité, la Neshama n'est pas un bloc, la Géoula n'est pas un bloc, qui est là-bas et qui vient ici, et Akadosh Baruch Hu non plus n'est pas un bloc qui, un coup, il est dans le ciel, un coup, il descend sur le mont Sinaï. Ça ne veut rien dire tout ça. Faire très attention, il faut prendre en maturité et grandir et comprendre qu'en réalité, il s'agit de dévoilements à différents niveaux, mais que jamais, jamais, au grand jamais, il y a une perte à la source, trace de chaleur. Toujours la même source qui envoie ses rayons, comme un soleil qui envoie ses rayons. Et même si de temps en temps vous fermez la fenêtre, le soleil n'a pas disparu.
L'événement, il est que pour
Non, pour toutes les nations du monde, pour tous les peuples de la planète et pour toutes les terres géographiques de cette planète et des planètes environnantes et du cosmos tout entier. Un goy peut avoir chelek le'olam haba. Il fait le travail nécessaire. Il y a des parties du olam haba, dit le Rambam, des chassidés ou mota olam, les gens qui font du bien. Donc le olam haba appartient aussi au goy. Vous avez choisi d'être né faisant partie de ce peuple d'Israël. Mais la plupart des êtres humains ont choisi de ne pas. On a un choix. On vous a posé la question, est-ce que vous voulez faire partie de ce peuple ou pas? Sinon, vous ne vous rappelez pas. Et vous avez choisi, malgré toutes les difficultés, Be'al kochacha ata notsar. Tu as été façonné malgré toi. Mais ça, c'est le façonnage. Ça, c'est Yetzira. Yetzira, c'est déjà un monde inférieur. Mais la Beria, Nivra, ça c'est autre chose. C'est quelque chose dont tu as le choix. Et Rashi nous dit d'ailleurs, et la Torah nous dit, « Kol ma'aseh bereshit, le da'atam nivreu. » Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est en te posant la question, est-ce que tu peux faire partie de ce peuple-là ou d'un autre peuple? Ceux qui se disent, mais c'est trop compliqué d'être Israël, effectivement, sont nés goy. Et c'est vrai que pour eux, la vie est plus facile. On se demande pourquoi certaines Neshamot ont choisi d'être Israël, comme les fous que vous êtes, que nous sommes. Réponse, tout simplement parce qu'il s'agit de Neshamot qui sont en réalité des Neshamot qui veulent, qui croient, qui ont une espérance beaucoup plus grande dans les choses. Ce sont des perfectionnistes, ce sont des idéalistes. Et quand tu poses un idéaliste, est-ce que tu penses que tu as bien fait? C'est une question qui ne se pose pas, parce que l'idéaliste, par définition, ne se pose pas ce genre de questions.
Et qu'est-ce qu'on nous a posé la question
de la Gemara? La Gemara nous le dit clairement. Alors, vous allez sûrement entendre que Be'al kochacha atanotsar, on vous a déjà cité ça, tu as été créé malgré toi. Be'al kochacha atachai, malgré toi tu vis, be'al kochacha atamet, malgré toi tu meurs. Mais en réalité c'est faux, ça c'est be'al kochacha atanotsar, yesira. Quiconque a déjà étudié un petit peu, un tout petit peu, des notions de Kabbalah, sait que le olam yesira, c'est un étage déjà inférieur, juste en dessous de lui il y a Asiya. Mais avant il y a la Bria, et là on t'a posé la question. D'accord? Simplement parce que tu as choisi de rentrer dans ce ventre de la maman juive. Hamaavak akashe shel Yaakov. Donc, le combat de Yaakov, comment je peux traduire Maavak? Le conflit qu'il mène toute sa vie, okay? Akashe. D'ailleurs, le mot Maavak, nous disent les Chachamim, vient du mot Avak. Poussière. Et les sages nous disent que lorsqu'il y a eu cette guerre entre lui et l'ange de Esav, ils ont fait monter de la poussière jusqu'au trône céleste. Et ce trône céleste, en réalité, c'est l'Olam Abria, c'est la même chose, c'est le monde que je viens de signaler ici. Donc ils ont fait monter, en réalité, quoi? De la poussière. Très intéressant. Et qu'est-ce que ça me fait de savoir qu'ils ont fait quoi? C'est une lutte grecque. J'imagine que les deux sont là, sont en train d'essayer de faire tomber l'un et l'autre jusqu'au moment où le soleil se lève. Okay. Bien, les Chachamim nous disent que le mot Avak, c'est en réalité ce que l'ange voulait frapper chez Yaakov. Ot, Berit, Kodesh. C'est-à-dire, il voulait le frapper à la Brit Mila. Pour empêcher sa descendance. C'est ça, le Avak. Geulaten lotit afsher. Donc, « Ma'avak akashé chez Yaakov avminu ba'aliyato le madrigat Israël. » Je rappelle juste en passant que ce combat a fait monter Yaakov à l'étage Israël. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il a un nom, une définition nouvelle qui s'appelle Israël. Sans perdre le nom de Yaakov. Je vous pose une question très simple. Si on l'appelle maintenant Israël, pourquoi garder le nom de Yaakov en réserve? Réponse, en cas d'exil. À chaque fois que Israël repart en exil, il enlève son vêtement Israël et il se rhabille avec Yaakov. C'est-à-dire que ça nous sert en réalité pour pouvoir résister à l'exil. C'est-à-dire que si tu es en exil en t'appelant Israël, t'es mort. Donc en exil, tu t'appelles Yaakov. Et quand tu reviens en Eretz Israël, en tant que nation, tu te rappelles encore une fois Israël. Donc moralité, nous avons en réalité une soupape de sécurité qui s'appelle Yaakov pour tous les exils que nous avons vécus. Donc à chaque fois que Akadosh Baruch Hu parle à Yaakov et qu'il n'est pas sur sa terre, il appelle Yaakov. Et quand il est en devenir, en retour vers sa terre, il s'appelle Israël. Donc ce combat le fait monter d'étage, de Yaakov à Israël. Hissiman les Dorot. Et ça aussi, c'est un signe pour les générations. Autrement dit, tu veux t'appeler Israël, il faut que tu te battes. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas t'appeler Yaakov, okay, si tu ne te bats, tu ne peux pas t'appeler Israël si tu ne te bats pas. Tu t'appelleras Yaakov parce qu'en exil, tu es tranquille, tu rases les murs. Donc notre délivrance finale ne pourra pas se réaliser si on ne met pas en marche, en route, notre Gvura Leumit, notre force au niveau de la nation, c'est-à-dire l'identité de Gvura. Gvura qui veut dire la capacité à se battre aussi et à définir les choses ou à les redéfinir plus exactement. C'est-à-dire que le Gibor, il doit être Kovesh avant tout. C'est-à-dire, il doit conquérir. Et au moment où il conquiert, où il revient vers ses mesures à lui dans tous les domaines, d'ailleurs, eh bien, il s'appelle Gevura. N'est pas par hasard qu'à chaque fois que vous avez Goël Israël, eh bien, le nom d'Hachem, le tétragramme qui apparaît juxtaposé à Goël, il est toujours avec deux points en dessous de chaque lettre, qui en réalité, les voyelles qui sont Shva. Shva en hébreu, c'est toujours Gvura, au niveau des sphères. C'est la sphère de Gvura. Avec des mots simples, à chaque fois qu'il s'agit de force nationale, le nom d'Hachem qui apparaît, il est toujours avec des points en dessous, c'est-à-dire quand vous avez le tétragramme, je l'écris avec des H, parce que je n'ai pas le droit d'effacer, et bien en dessous, il y a deux points, deux points, deux points et deux points. Vous allez voir le nom d'Hachem comme ça. Ça sous-entend que nous sommes en train de faire quelque chose pour faire avancer le processus de Géoula. Ça passe toujours par la Géoula, tu dois être un Gibor. Donc ça va de pair avec la capacité que nous avons de redéfinir d'abord nous-mêmes les Asmenu et Tzod Yehudenu. Et nous devons redéfinir aussi notre but, ben haumot parmi les nations, c'est-à-dire pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes revenus sur notre terre, et quel est notre rôle parmi toutes ces nations du monde. Vetazman amatim lekach, et en plus de ça, il y a un temps. C'est-à-dire que tu dois être capable aussi dans ta gevura, car gevura égale capacité à définir, tu dois aussi savoir définir le temps de chaque chose. C'est ça le gibor. Le gibor, ce n'est pas quelqu'un qui va casser une ville, mais quelqu'un qui sait donner les mesures de chaque chose. Aussi, les mesures du temps. Je veux dire par là que si tu rates le temps qui est nécessaire pour faire quelque chose, tu perds de cet attribut de gevura. Tu es en retard, donc ta gevura n'a pas été utilisée au maximum de ses forces. Donc tu dois savoir en même temps le temps, tu dois savoir l'espace, et tu dois savoir toi qui tu es. Donc les trois éléments de ce monde, le temps, l'espace et l'homme, si tu sais les définir, être au bon moment, la bonne personne, et au bon endroit, ça c'est la victoire d'Israël. Véniné, l'amrota abtacha eloïtelav. Et donc pourquoi je vous ai dit ce que je viens de vous dire, vous allez le voir tout de suite. Malgré la promesse qu'Akadosh Baruch Hu fait à Yaakov, Vehine Anochi Eimach, je serai toujours avec toi. Ushmarticha Bechol Asher Telech, je te surveillerai là où tu iras. Yaakov Khoshesh. Yaakov, malgré tout, a peur. La Torah nous le dit. Mina misgash im Esav. De la rencontre avec Esav. Et donc, on ne comprend pas. Plus qu'une promesse divine, tu es prophète. Tu entends Akadosh Baruch Hu te dire, je serai avec toi. De quoi t'as peur? Donc, la question se pose, pourquoi? Rabbi Yaakov Bar-I dit Talmud. Donc, Rabbi Yaakov Bar-I dit dans le Talmud de Brachot, à la page 4, et dans le traité de Sanhedrin à la page 98, nous dit, Shema Yigromachet. Peut-être que Yaakov a peur d'un péché, d'une faute. Klomar, Mishum Shi Yaakov Avar Avera. Donc d'après ces dires, Yaakov a fauté. Il a fait quelque chose d'interdit. Vadavar, mais avec qui trouve. Et donc, cette interdiction fait en réalité un obstacle avec sa réussite. Donc il se dit, c'est sûr, Akadosh Baruch Hu, il m'a promis d'être avec moi. Mais là, j'ai fauté. Et là, chez Zéomed, Bestira, les drachat Rashi à la Passo. Mais c'est en contradiction totale et avec Rashi et avec ce que le verset lui-même de la Torah nous dit. Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, dit Yaakov, Vesariag mitzvot shamarti, et j'ai observé les 613 mitzvot de la Torah. Donc en réalité, de quoi t'as peur? Ça fait toute la Torah, c'était un grand religieux.
Marié avec les deux sœurs.
Quel? Et alors? Non, il n'y a pas de Torah encore.
Quel?
Donc si Rashi nous dit qu'il a observé les 613 mitzvot de la Torah, okay, eh bien, il n'y a pas de faute. Alors de quoi a-t-il peur? Ce n'est pas des questions, c'est des questions rhétoriques. Hein. Mais en réalité, la faute de Yaakov est écrite juste à côté. Mofia Bem Shecha Katou va echar ad ata. J'ai trop tardé pour faire mon alia, pour faire mon retour. Voilà la faute, Yaakov le dit. Il n'a pas fauté d'une faute religieuse entre guillemets, j'ai pas fait ça ou j'ai pas mangé comme ça et j'ai pas attendu 3 heures ou 6 heures entre l'aile et la viande. C'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus englobant. C'est quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et quoi? Va'echar ad ata. Qu'est-ce que ça veut dire va'echar ad ata? J'ai tardé jusqu'à maintenant. Kloma, ait akvut bagalut yeter al amida. Autrement dit, le fait de rester en exil plus que ce qui est nécessaire, donc un manque de gvura, c'est ça la faute. C'est-à-dire, tu devais finir ton rôle. Il y avait un rôle en exil, certes, c'est vrai, mais il faut que tu saches aussi définir quand ce rôle se termine. Yaakov nishar bebet laval. Mais moi, ça ne me suffit pas. Je veux savoir pourquoi Yaakov est resté. Yaakov, il sait très bien ce que Yoel dit dans le cours. Il n'a pas besoin de moi. Yaakov nishar bebet lavan shesh shanim nosafot. Yaakov est resté 6 ans de plus que le temps qui était prévu pour qu'il revienne bâtir la maison d'Israël sur sa terre. Almenat lemamesh et achazon. Et pourquoi voulait-il rester? Parce qu'il s'est dit, je veux appliquer la prophétie. Ve'acharechen yes'u birchush gadol. Nous devons sortir avec des biens de cet exil. C'est-à-dire, je ne veux pas rater la mission pour laquelle j'ai été envoyé en exil. Je veux donc rassembler tout ce que je dois faire venir avec moi, enlever tout, quitter tout, récupérer toutes ces étincelles et les ramener sur la terre d'Israël. D'ailleurs, pourquoi voulait-il faire ça? Il avait une bonne raison. Pour nous éviter d'autres exils. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais terminer les exils pour toute l'assemblée d'Israël à toutes les générations. C'est moi qui termine le rassemblement de toutes les étincelles. Ça part d'un bon sentiment. Chez Tachlit Agalous. Et donc, pourquoi il fallait donc rester là-bas? Parce que le but de l'exil, il est Saref et Cherke à Kodesh, c'est pour rassembler, pour récupérer les valeurs du Saint béni soit-il, qui sont tombées lors de ce qu'on appelle dans la Kabbalah Shvirat HaKelim, la brisure des ustensiles, des vases, okay, On sait que ça veut rien dire, mais bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à la création du monde, il y a eu en fait un éparpillement de toutes ces étincelles dans le monde entier. Et les exils sont là pour que Israël aille récupérer toutes ces forces-là pour les ramener dans cette frontière d'Eretz Israël dans laquelle nous sommes. Et où se cachent toutes ces étincelles? Betarbouyot ou Motaolam, dans toutes les cultures des nations du monde. C'est-à-dire que quand vous étiez en France, vous avez récupéré dans la culture française quelque chose qui était caché à l'intérieur de cette culture. Il fallait juste enlever ce qui est appartenu et le ramener en terre d'Israël. Ve'arachim ele, hayut munim etzel lavan, belea, berachel ou betsono. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut nous définir ces étincelles? Eh bien, c'était Léa, Rachel et toutes les brebis de Yaakov. C'est-à-dire l'argent qu'il a fait en Khoutzlar. Dans cet argent, il y a des étincelles divines. Vous savez que l'argent s'appelle en hébreu Damim, le sang. Et donc, en réalité, quand tu récupères de l'argent de Khoutzlar, c'est en réalité des étincelles que tu fais revenir en terre d'Israël. En Égypte, d'ailleurs, quand les enfants d'Israël sont sortis, il n'y avait plus rien en Égypte. C'est-à-dire, Asu et Mitzrayim kemetsula she'en badagim, comme un fond de mer sans poisson. C'est-à-dire, ils ont complètement vidé. Ça veut dire que les nations du monde intuitivement sentent que le juif qui est en eux se nourrit de leur force. Et donc l'antisémitisme grandit. Velachem, it akevke. Sham Yaakov, al menat liot batuach, shelo yotir sham afilu nitos echad. Donc Yaakov s'est dit, je vais rester encore quelques années pour bien terminer le travail. Veleaftir shezotia galuta achrona, pour bien faire en sorte que ce soit le dernier exil. Yaakov sauver, sheyech lisher ot ktsat bagalut. Donc Yaakov a décidé de rester un tout petit peu plus en exil, kedele roken, pour vider. Absolument, et kol haor ha-shayach l'Israël, toute la lumière appartenant au peuple d'Israël. Rashi motif roved notsat l'echashechotav shel Yaakov. Mais ce n'est pas terminé. Yaakov reste pour autre chose, et c'est Rashi qui nous le révèle. Ve'omer shepachado haya, et il dit Rashi, de quoi avait-il peur? Shema yehareg, il avait peur d'être tué. Ve'shema yaharog hu et acherim. Et de peur que lui ne tue quelqu'un d'autre. Très bizarre. D'où est-ce que Rashi prend ça? Ben parce que le verset se divise en deux parties. Vayira Yaakov me'ot, vayetserlo. Yaakov a eu très peur et il était très stressé, angoissé. Pourquoi tu me répètes deux fois ça? J'ai compris, il avait très peur. Alors, vayira Yaakov me'ot, dit Rashi, de quoi avait-il peur? De se faire tuer. Ben, Yeserlo, il était stressé de lui devoir tuer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, d'abord, la tournure de la phrase, elle n'est pas du tout au goût de la grammaire hébraïque. Alors, si vous saviez parler l'hébreu à un haut niveau, vous verrez qu'en réalité, on ne parle pas comme ça dans la rue. Ok? Shema Yaharog Hu et Acherim. N'importe quoi. D'abord, on ne dit pas et Acherim, on aurait dû dire Acher, Adam Acher, sans le et. Non, c'est complètement absurde en hébreu. Mais je vous passe les détails, mais c'est d'Ulpan. Mais si en réalité Rashi nous parle de cette manière-là, lui qui est parfait hébraïsant, ça veut dire qu'il est en train de nous enseigner quelque chose d'autre. Yaakov avait peur de tuer qui? Acherim. Qui c'est Acherim? Habitouille Acherim, voici mesdames et messieurs, l'expression Acherim metzayen batalmud et Rabbi Meir. À chaque fois dans le Talmud qu'on veut parler de Rabbi Meir Baalanes, alav shalom, on l'appelle pas Rabbi Meir, on l'appelle Acherim. Tout doucement. Acherim. Horayot, donc c'est dans le traité de Horayot, à la page 13, deuxième page. Sodak dushag nous a be'edom. En réalité, il s'agit ici de savoir Et je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a des étincelles dans les nations du monde. Et là, nous sommes chez Edom, dans l'histoire de Lavan, de Yaakov. Donc, en réalité, Edom a engendré Rabbi Meir. Pourquoi ? Shiyasa mineron Kessar, puisqu'il est sorti de César, de Néron. Rabbi Meir est sorti, donc, d'une culture complètement étrangère. C'est ce qui est écrit dans Gittin, Nunvav, qu'il est sorti de Néron Kessar, César. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Yaakov, en réalité, en récupérant les étincelles, avait peur de tuer au passage Rabbi Meir, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans le futur. Comme Rabbi Meir, c'est Stam Mishnah, dans la Mishnah, toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Meir, se dit à Jacob, si je fais quelque chose maintenant, il vaut mieux que je me tienne à carreau, parce que si je touche, car il s'agit maintenant de travailler dans les molécules avant que le peuple ne soit là, donc c'est très délicat. Si je touche un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche, je risque de tuer en réalité la Torah orale, qui dans l'avenir devra sortir de Rabbi Meir, qui sort de Edom. Ki uma shel kedusha v'tzad acher. Alors pourquoi on l'appelle acherim ? Ben tout simplement parce que la sainteté ici se trouve de l'autre côté. Vous savez qu'il y a le côté face et le côté arrière, dos. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, on peut le servir de deux manières. Ou face à face, ou chas v'shalom, du côté arrière. Quand le peuple d'Israël ne sait pas se mettre face à face avec Akadosh Baruch Hu, car c'est l'idéal, comme un homme et une femme, bien chas v'shalom peut venir la Géoula même du côté arrière. Mais alors ça fait très mal. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la Megillah d'Esther. Si Esther, il dit Mordechai à Esther, si tu crois que je t'ai placé chez Achashverosh pour te taire et ne rien dire, sache que Revach Ve'atzala yavola Yehudi mimakom acher. Il y aura la Géoula, mais ça viendra de Chas V'Shalom du côté achor, c'est-à-dire de la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez devoir passer dans des fours. Okay? Donc, acher, au pluriel, parce qu'il y a beaucoup d'étincelles, c'est Rabbi Meir. Donc c'est Acherim. Chez la Messiout. Mechayev Zehirut Ve'adinouk. Donc il y a Jacob qui est prophète. Qui sait tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Qui voit, qui entrevoit la Neshama de Rabbi Meir. Il se dit, je dois faire très attention pour ne pas le blesser. Pour que l'étincelle qui est prisonnière, ici Assour c'est prisonnier, comme d'ailleurs tous les Issourim. Chaque fois que vous dites c'est assourd, c'est pas interdit, c'est prisonnier. C'est assourd de faire ça, c'est-à-dire c'est assourd. En faisant ça, tu rentres en prison, mentalement. Tu te mets toi-même dans un emprisonnement. Donc quand tu fais un issourd de la Torah, en réalité, tu t'enfermes. Et tous les matins, on doit faire une bénédiction, matir assourim, celui qui nous délivre de la prison. Pour ne pas que Rabbi Meir soit blessé. Regardez jusqu'où vont les sages. Regardez une parole de Rashi, quelqu'un qui ne comprend pas. Ça, il dit, bon, il a la trouille de se faire tuer ou de tuer. C'est pas ça du tout. Malgré cela, cette peur-là, parce que de facto, elle a lieu, elle n'est pas signe que Yaakov peut revenir en Eretz Israël. Parce qu'en réalité, lui aussi était du côté de la Kedusha au départ et il est passé de l'autre côté. Et l'Arabi Meir vient de l'autre côté et revient vers le droit. C'est-à-dire de Achor vers Panim. Achor va Kedem Tartani. Kedem, c'est Kadima. Donc il y a Achor va Kedem. Et Akadosh Baruch Hu a les deux manières, et chacun de nous peut servir Akadosh Baruch Hu des deux côtés. Shalom, faire attention de ne pas servir de côté arrière, mais du côté face. Panim, befanim, diber Hashem immachem. Soyez toujours face à face avec Akadosh Baruch Hu, car c'est là le véritable contact, le véritable lien entre lui et elle. Entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël qui ressemble à son épouse. Et jamais, 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 rentrer de l'autre côté de la partie arrière de l'histoire qui est beaucoup plus compliquée. Et la Géoula peut arriver comme ça. Mais Arba Ruchot Boy Aruach. Le souffle divin de la Géoula peut apparaître de n'importe quel côté. Ne forcez pas Dieu à venir que d'ici. Si vous agissez comme ça, il vient de l'autre côté. Si vous agissez comme ça, il vient ici. Arba Ruchot, ça veut dire de tous les côtés. On ne peut pas limiter à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce?
Il a dit à Moshe, tu peux pas regarder Marta.
D'accord. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder le côté arrière. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Ne me sers pas du côté arrière. Non, non. Il est kiloir ani adam. Panim be panim vachai. Tu ne peux pas rester dans ton état de maintenant, de vivant, si tu me regardes face à face. Tu vas monter à un autre degré. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que tu peux voir? La préhistoire. Pas la préhistoire. Et elle apostrophe. Après histoire. C'est-à-dire, veraïta et achorai, qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras les choses quand ils se seront déjà passés. Atatire et advarim acharé. L'olifne. C'est ça que ça veut dire.
Ouais. C'est Edom, c'est le détournement des sables, et ça, les on dirait, il n'est pas parti chez la femme.
Et toute la famille qui est là-bas, c'est Edom. Et ça vous est d'homme. C'est lui qui a fait, qui a fondé tout ce lien. Là, on vient de le lire dans la paracha d'hier, tous les aloufim.
Dans la paracha, et ça avait été à
Zorachouf, c'est toute la culture de Edom qui est là-bas. Qu'est-ce? Et Har Seir, c'est en réalité le jugement dernier. Ve'alou Moshirim Behar Sion, les Shpot et Sar Va'ita Lachem Amloukhat. Ce qu'on a lu dans la Haftara hier. Donc on va dire. Qu'est-ce? Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici une connotation de la fin des temps où on doit, il y aura un jugement des nations du monde, en l'occurrence Esav, qui est Edom, qui est aujourd'hui l'Occident. Qu'est-ce que c'est que ce jugement? C'est pas on va les mettre devant un tribunal et on va les juger. C'est-à-dire qu'ils seront jugés par rapport à leur décalage avec Israël, avec ce qu'Israël devait apporter au monde et qu'ils ont refusé durant toutes ces années. C'est ça qui les juge. De la même manière que nous, c'est quoi notre jugement? Notre décalage par rapport au vrai travail que nous devions faire. Ok.
Je comprends pas ce que ça veut dire, servir Dieu de la face arrière.
Ça veut dire tout simplement utiliser des moyens interdits. Par exemple, la sorcellerie. On peut servir Dieu par la face arrière. Comme Bilam, comme beaucoup de forces occultes qui essayent d'atteindre Akadosh Baruch Hu et qui entendent des degrés de l'autre côté de la face interdite. C'est-à-dire quand tu fais de la Avodah Zara, tu sers Dieu, mais du côté arrière. Non, ça peut apporter aussi. C'est-à-dire que même avec ça, Akadosh Baruch Hu fait sa Géoula. Comme le Rambam dit, même toute l'histoire de Jésus, ça fait venir la Géoula après tout. Mais ça a fait beaucoup de dégâts en chemin. C'est tout. Bien. Alors, ça c'est déjà ceux qui reviennent au judaïsme, qui sont en réalité des juifs de naissance, et qui un jour sont sortis du circuit parce que les parents se sont mariés avec des neshamot étrangères. Alors, le cas de Rabbi Meir, c'est tout simplement une volonté intérieure de sauver le monde. C'est-à-dire, je viens en tant que représentant des nations et je veux prendre d'Israël pour aller récupérer toutes les nations du monde. Donc, je dois être un représentant, je dois éclairer Meir pour le monde entier. Puisque vous avez posé cette question, c'est tout simplement l'histoire de Dina. Pourquoi on a besoin d'une fille dans les tribus d'Israël? Il y a 12 garçons apparemment, ça suffit, non? Bien non. Il fallait que Dina soit la représentante qui reçoit. Car la femme est une receveuse. Tous les garçons sont des donneurs. Donc Israël donne aux nations. Mais qu'est-ce que nous recevons des nations? Comment est-ce qu'on peut recevoir des nations? Il faut une fille. Donc Dina va tesser Dina. Dina est sortie pour recevoir des nations. C'est-à-dire que le mariage entre Shrem et elle, qui était un viol, en réalité c'était pour fonder la 13e tribu qui devait être le pont avec les nations du monde. Mais ça a foiré, parce que, chas v'shalom, le lien était d'une manière interdite, d'une manière qui était znout, et chas v'shalom, tout a capoté à ce moment-là. Mais c'était le but. D'ailleurs, Yosef aussi, que nous allons rencontrer bientôt, lui aussi, son idéal, c'est quoi? C'est de créer un pont entre Israël et les nations. Donc, Rabbi Meir fait partie de ce clan-là, et pas le seul, Rabbi Akiva. C'est-à-dire, il y a des forces dans le peuple d'Israël qui sont venues des nations du monde, qui sont très importantes, qui étaient Ben Guérin. Ken, Onkelos, et ainsi de suite. Ruth, Bechlat, c'est le Mashiach. Malgré tout, parce qu'il y a une position telle que celle-ci de Yaakov, c'est-à-dire de la peur de toucher, de ne pas blesser, de ne pas faire quelque chose, d'être très 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 prudent, on ne peut pas revenir en terre d'Israël, on ne peut pas vaincre avec ce genre de situation, parce qu'il y a dans ce retour, dans cette Géoula, une notion de Gvoura, que tu es obligé de te battre, obligé de mettre les poings sur la table et de dire, je dois rentrer, c'est chez moi, et je n'ai plus autant de délicatesse, entre guillemets. La chenoucha chatikun lavo, donc Akadosh Baruch Hu va corriger le tir, en l'obligeant à Yaakov à se battre. Et donc c'est le fameux combat, Ma'a va kosher Yaakov, il s'arroche l'Esav avec l'ange de Esav. Kedela alot le madrigat Israël, vela vola aret, pour bien nous prouver que pour monter en Eretz Israël, il faut que tu te battes, et au niveau individuel, et au niveau collectif. Et ce combat, il est jusqu'au lever du jour. Chez Yaakov machlit la chouv le Eretz Israël, et im likute amitosot, donc Léa et Rachel, quand Yaakov décide de revenir donc avec toutes les étincelles qui étaient en réalité dans Léa et dans Rachel, qui représentent en réalité les deux mots, Léa, le monde d'en haut, des idéaux, et Rachel, le monde du réalisé. Néhémar, alors il est écrit là-bas. Je vous cite le verset, Vayakom Balaila Hu. Il s'est levé dans la nuit, lui. Pas Balaila Hahu. C'est pas, il s'est levé cette fameuse nuit, comme c'est marqué dans vos livres. Non, c'est pas marqué Hahu. Vayakom Balaila Hu. C'est-à-dire quelqu'un s'est levé durant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, qu'est-ce que j'en ai à faire s'il se lève la nuit? Il est parti peut-être boire un verre d'eau. Vous comprenez que c'est des messages? Il a décidé de se lever et d'arrêter le processus nocturne de la nuit. Quand on dit Vayakom, c'est-à-dire j'ai pris une décision, je me lève, je me mets debout, car rester dans la position couchée, c'est être dans une position de mort. J'arrête d'être un mort vivant, c'est ce que Yaakov est en train de dire. Et alors qu'est-ce que je fais? Vaikach et Shteinashav. Ça veut dire que l'exil est comparé à une mort. Vous saviez ça, dans Yeheskel 37, nous sommes dans un grand cimetière. Tous les enfants d'Israël qui se trouvent en dehors de cette terre s'appellent des ossements desséchés. Je rigole pas, c'est ce qui est marqué, malasot, c'est Asamota Yeveshot. Et quand vous voyez un grand oratoire avec beaucoup, 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 beaucoup de juifs qui prient, c'est un cimetière. Mais voilà. C'est des ossements desséchés. Vaikach et shtei nashav, ve et shtei shifrotav, et il décide de prendre ses deux femmes et ses deux servantes. Ve et achad asar digaladav, et ses 11 enfants. Vayavor et ma'avar yabok. Et il passe le passage de Yabok. Vaikachem vayavirem et anachal. Et il les prend et il les fait passer le fleuve. Vayavir et asher lo. Et il fait passer tout ce qu'il a acquis. Alors, avec votre permission, je voudrais rentrer dans ce Ma'avar Yabok. Qu'est-ce que c'est que ce passage de Yabok? C'est les mêmes lettres que Yaakov. Et alors? Sympathique. Il manque quand même Aïn. Nakhon? Lochashou. Mais c'est vrai. Il y a eu un lien. Mais je vais un petit peu plus loin, avec votre permission. Ma'avar Yabok ou Sod Astoum. C'est un grand secret ce Ma'aver Yabok. Et si la Torah prend le soin de me dire, parce que j'en ai rien à faire là aussi, où est-ce qu'il a traversé? Qu'est-ce que ça t'aurait fait s'il était sur le pont d'Alembi? Pourquoi la Torah me dit qu'il est passé par là? Parce que le mot Yabok est un code que je dois moi décoder. Ve'ariz alé, qui c'est qui nous le décode? Le Ari HaKadosh. Et il nous dit, Melamed Shesodo Ganuz Bishmo Yabok. Le secret se trouve dans le nom lui-même, Yabok. Aolé le Mispar Shilouv Havaya Elohim. Car si tu prends Yabok, c'est en réalité 112, c'est-à-dire le nom que j'ai écrit ici, le tétragramme, plus le nom de Elohim. Et alors, c'est très sympathique, c'est encore des jeux de mots et de lettres. Pas du tout. Vous savez que le tétragramme représente en fait Dieu lorsqu'il est au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la nature. Il surveille la nature, mais à l'extérieur, entre guillemets. Mais le nom d'Hachem qui est dans la nature, c'est Elohim. Or, Yaakov, qu'est-ce qu'il veut? Il en a marre d'être dans un lieu où il n'a pas, lui, de Elohim. Parce qu'en chutz la'aretz, dit la Gemara, kol hadar bechutz la'aretz, domé kemi she'en lo Elohim. Ceux qui habitent en dehors d'Israël n'ont pas de Elohim. C'est marqué dans la Gemara, à 5 références. Autrement, qu'est-ce qu'ils ont? Que le tétragramme. Mais ça suffit pas. C'est un dieu transcendant. Mais moi, j'ai besoin d'un dieu immanent. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu transcendant Yud-Ké-Vav-Ké devienne immanent? Je dois faire en sorte que Adonai ou Elohim. Et donc, Yaakov va choisir un lieu, entre guillemets, c'est une gematria, qui fait en sorte que le tétragramme 26, plus le Elohim 86, donne le chiffre Yabok 112. Véot, c'est pas terminé. Quand tu veux prendre toutes les sphirotes, vous savez qu'en haut, il y a le nom de Ehyé. Au milieu, il y a le nom de Yud-Ké-Vav-Ké, le tétragramme. Et en bas, il y a le nom de Adon. Et la même chose, Ehyé, c'est 21. Yud-Ké-Vav-Ké, c'est 26. Et Shem Adon, c'est 65. Là encore, on est dans 112. Le compte est bon. Ça veut dire qu'en réalité, Yabok, c'est ce secret-là. C'est ça le secret de Yabok. C'est-à-dire que Yaakov a une idée en tête, et c'est celle qui veut nous faire passer. C'est qu'il faut que tu fasses de ton Dieu transcendant un Dieu immanent. Il faut que tu arrêtes de vivre dans l'espace. Il faut que tu vives dans l'espace-temps et dans la matière, et que tu fasses descendre en réalité la réalité divine supérieure dans un monde réalisé. Ceux qui savent les secrets de ces noms-là savent qu'en réalité il s'agit de tous les étages, de toutes les sphirotes. Et donc le secret de cette chose-là, tout ce que le Arizal veut nous dire, c'est que notre retour en terre d'Israël, en réalité on refait le lien entre tous les mondes. Ou ben kol akomot, et entre tous les étages. C'est ça le Yabok.
Ça apporte quoi?
Ça apporte tout simplement que Dieu descend sur terre. Sinon, Dieu est un planeur qui est en exil à cause de nous. Ça veut dire qu'en exil, c'est pas les Juifs qui sont en exil, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'a pas où poser sa terre, il n'a pas où poser ses jambes, et donc il ne peut pas se réaliser. Donc le monde reste dans son angoisse, dans son exil, dans sa dépression. Donc le retour d'Israël sur sa terre, c'est le retour d'Hachem sur sa terre, pour le réaliser complètement, pour changer les valeurs de ce monde, pour que ce monde vive avec une éthique divine, et non pas avec des valeurs que les hommes se sont inventées. Donc ça change complètement. Zéa Soulam. Et donc c'est l'échelle, ce Yabok c'est l'échelle. Alab Chalam Yaakov Betseto Minaharet. Il a rêvé cette échelle Yaakov quand il est sorti, parce qu'il avait peur de quitter donc le lien entre les mondes. Vela Soulam Azeyeshel. Yosef. Et cette échelle, elle a un nom. C'est Yosef. Parce que Yosef, c'est quoi? C'est tout simplement celui qui est capable de faire le lien entre le ciel et la terre. Rappelez-vous que Yosef, lui, est responsable de traduire des rêves en réalité. Rappelez-vous que Yosef est le spécialiste de traduire des rêves en réalité. Donc, comme il est Poter Chalomot bien avant Harry, Poter, Ken. Donc il sait en réalité coudre, il sait coudre les morceaux, il sait coudre un rêve et en faire une réalité, mais c'est exactement la même chose. Il prend le tétragramme, il en fait Elohim. Ça c'est un homme. Seul celui qui est capable de prendre le nom d'Hachem, le tétragramme, et en faire Elohim, ça c'est un homme qui réalise Hachem dans ce monde. Autrement dit, ne laisse pas Kadosh Baruch Hu dans tes idéaux, dans tes belles paroles, dans tes chiourim, mais vis-le. Est-ce que tu es capable de le réaliser? C'est ce qu'on appelle la Emouna. Est-ce que tu le réalises réellement? Mais pas comme tu as envie toi. Parce que tu me dis, oui, je fais Torah et Mitzvot à New York. Non, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. En tant que nation, sur ta tête. Ça, c'est autre chose. Ou mi ke amcha ke Israël, goy echad ba'aret. Dit le Zohar, rak ba'aret em goy echad. C'est seulement ici que tu peux faire réaliser ça. Avec chez Yosef, mon fils, ba historia. Donc, lorsque Yosef apparaît dans l'histoire, après, mit orerot haumot venitionot en sfor leakev afilu lebatel et isu megamatenu Elohim. Immédiatement, les nations du monde commencent à avoir peur. C'est-à-dire qu'elles ont peur d'un seul être, Yosef. C'est-à-dire, Yosef, c'est le Satan des nations. Je vous l'ai dit la dernière fois. Yosef en valeur numérique, 156. C'est-à-dire, 156, c'est quoi? C'est Tzion, mais c'est en même temps les 12 tribus. 5 plus 1, 6, plus 6, 12. C'est-à-dire, Yosef à lui seul, c'est les 12 tribus. Et en plus de ça, c'est le sionisme, parce que c'est le retour à Tzion. Ça veut dire que les Goy, tant qu'ils avaient des Juifs, ils étaient antisémites. Et quand il n'y a plus de Juifs, ils sont anti-sionistes. C'est pareil. Mais en réalité, c'est ça qui les fait peur. Ve'ala minari. Paro n'a peur que d'une seule chose. Pas qu'on quitte l'Égypte. Qu'on aille en Eretz Israël, ve'iné omed mimouli, parce qu'il va me faire de l'ombre. Il est face à moi. Ça veut dire, enfin, il y a un peuple qui peut me faire face. C'est ça que ça veut dire. Les nations du monde ont peur de cela. Inconsciemment et consciemment. Parce qu'en réalité, elles font tout pour. Au contraire, inconsciemment, elles nous respectent. Parce qu'elles ont peur, elles savent que nous sommes venus faire quelque chose, mais consciemment, elles n'arrivent pas à prendre l'inconscient qu'elles ont pour le traduire en conscient. C'est-à-dire, il y a un problème dans le passage de l'inconscient au conscient chez la nation du monde. C'est le, pas le même concept. Amalek veut plus haut encore. Paro a tenté de jouer le jeu de Amalek, il voulait se prendre pour l'aîné, donc il s'est dit c'est moi l'aîné de Dieu, donc Akadosh Baruch Hu a frappé tous les aînés, y compris lui. Amalek c'est encore plus délicat. Amalek, il veut séparer le monde. C'est-à-dire qu'il veut en réalité Réchit Goïm Amalek. Lui il s'appelle Réchit. Donc Bé Réchit, Bara Elohim et Tachama et Vetares, qu'est-ce qu'il se dit le Amalekite? C'est grâce à moi que le ciel et la terre existent. Et Dieu m'a choisi à moi. Et c'est pour ça que la guerre contre Amalek, ce n'est pas seulement la guerre d'Israël, c'est la guerre d'Hachem. Milchama l'Hachem, bah Amalek midordo. Donc c'est encore un concept qu'on étudiera à Pourim. Vous savez que chaque fête vient avec son taklipa, dans sa boîte. Et il y a son antithèse. Hanouka vient avec la Grèce. La semaine prochaine, Be'ezrat Hachem, on parlera un petit peu plus, parce que c'est déjà le dernier cours avant Hanouka. Après on aura un arrêt. Et donc, on va un tout petit peu toucher aussi cette fête de Hanouka qui est liée à tout ce qu'on est en train de dire maintenant.
Excusez-moi.
Mais
Yaakov, il a tué l'ange des sables. Ça lui a porté quoi?
Où il a tué? Quand il a tué? Dans quel chapitre? Il n'a pas tué?
Il n'a pas tué.
Il n'a pas besoin de le tuer. Cet ange, il est en lui. C'est une force qui est en lui. La Torah le dit, « Vaïvater Yaakov levado », Yaakov est seul. Donc pourquoi tu me dis « Vaïe avec Ishimo » Traduction, un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire c'est ton combat, toi et mon combat, moi tous les jours. C'est un homme.
C'est
le Chachouv, il est en moi. J'ai aussi en moi une force édomite qui essaie de me perturber, qui essaie de me cacher le Israël qui est en moi. Et moi, tout ce que je dois faire, c'est combattre ce Edom pour retrouver le Israël et monter à mon niveau. Quand vous avez des doutes dans la vie, c'est exactement ce combat nocturne. C'est ça que ça veut dire. Tu te sens seul, tu te sens paumé, abandonné, t'as froid, il fait nuit. Personne ne peut te donner de l'espoir. C'est ça que Yaakov est en train de ressentir. Ressentez ce combat. Et quand est-ce que ce combat a lieu? Quand il prend conscience qu'il n'a plus rien à faire en dehors. C'est là où se réveille le véritable combat. Ça veut dire quand est-ce que tu as combattu et que tu as réussi dans ta vie? Dafka dans des moments de détresse. C'est là où ça grandit d'un étage. Et ça passe toujours malheureusement par cette blessure pour grandir, pour arriver à Israël.
Okay.
Okay. Nahon. C'était sa spécialité. Zesod hem shech apsukim. Et donc c'est la suite du texte. Vaivater Yaakov levado. Donc Yaakov est resté seul. Vaya avec ish imo. Maintenant vous comprenez. Je traduis le texte textuellement. Yaakov est resté seul. Donc un homme s'est battu avec soi. Avec lui-même. Et ça, c'est le Esav qui est en Yaakov, qui se cache en lui, puisque c'est son frère jumeau. Donc, moralité, c'est le bien et le mal qui se battent à l'intérieur de moi-même à chaque instant, et je me dis, je vais pas. Je fais pas.
Ok. On dit qu'il a voulu détruire.
Ben, vadaï. Et vous savez combien on a d'autodestruction à l'intérieur de nous-mêmes? Tout le mal qu'on se fait, c'est nous-mêmes. C'est un chidouche? Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. C'est tout. Une femme m'a téléphoné tout à l'heure, et elle commence à me raconter qu'elle est sévère avec celui-là, et avec son mari, avec ses enfants, et avec elle-même, etc. Je lui dis, tu te trompes pour Dieu. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte. Je lui dis, alors descends de nouveau. T'es pas à Kadosh Baruch Hu. T'as pas des écrans devant toi et tu dois tout gérer, les problèmes de tout le monde. Il y a des gens comme ça, toute la journée, ils veulent gérer les problèmes de tout le monde. Ils se prennent pour Akadosh Baruch Hu. Il faut arrêter de se prendre pour Akadosh Baruch Hu. C'est un ego qui est tellement gonflé, mais il se cache sous des soi-disant « je suis Anav ». C'est Anav avec bête, c'est pas Anav avec vin. Un raisin. Nachon, à condition de se révolter de l'intérieur. C'est-à-dire qu'un élève a le droit de se révolter dans le cours, mais pas quitter la salle. C'est-à-dire qu'il doit poser des questions, tout ce qu'il a, pendant le cours. Mais pas pour se révolter, pour jeter des chaises, pour réellement comprendre parce qu'il a mal à l'intérieur et il veut comprendre les choses. Donc il exige. Ça c'est normal, c'est légitime.
Absolument,
c'est la même chose. C'est la même chose, c'est pour ça que ce combat a lieu ad alota shachar, jusqu'à le lever, jusqu'au lever de shachar. Qu'est-ce que c'est shachar? Qu'est-ce que c'est shachar? Pourquoi? En hébreu, ça veut dire noir. C'est shachar. Ça veut dire qu'en hébreu, il y a un jeu. Le shachor devient shachar. Shachar, c'est plus un shachor. C'est un shachor qui a compris qu'il va vers la lumière. C'est-à-dire que c'est un pessimiste qui a changé complètement. Donc, tu as transformé le shachar en shachor. Et d'ailleurs, en hébreu, le shachor en shachar. Et d'ailleurs, en hébreu, quand tu veux quelque chose, on dit shocher. Ani shocher tov. J'en peux plus, je veux. Alors que c'est les mêmes lettres que Shachor, Chaz v'Shalom. Vous comprenez? Parce que tout simplement, Yaakov veut en réalité, par ces passages-là, sauver les nations du monde. Au nombre de 70. Aïn en valeur numérique, 70. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov a fait passer le Yaakov de lui-même. Il y a encore les 70 nations à sauver. Ma, Yaakov a été blessé. Nachon. Okay. Donc, vous n'avez pas besoin de moi, vous vous excusez déjà. Non, j'ai jamais compris cette expression en français. Je m'excuse. Je m'excuse tout seul.
Okay.
Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je te laisse seulement si tu m'as au passé. Et c'est ça le problème en français. Ki im berachtani. Pas marqué ki im tevarecheni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux que tu signes rétroactivement que tout ce que tu m'as accusé de tous les mots, M-A-U-X, tout est faux. C'est ce qu'on va dire aux nations du monde à la fin des temps. Vous nous avez accusé de tous les maux de la planète. Je te lâche pas maintenant, tant que tu ne dis pas rétroactivement que tu t'es trompé. C'est ça que dit Yaakov. Vous comprenez comment la lecture en français de la traduction, elle est complètement à côté de la plaque.
Alors c'est quoi Yaakov qui devient Israël? C'est quoi?
Ça veut dire qu'il est monté à un étage maintenant. Pourquoi on l'appelle Israël? Kistarita im Elohim veim Anashim. C'est-à-dire que tu es capable de te confronter à des valeurs divines en même temps qu'à des valeurs humaines. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement un planeur et tu n'es pas seulement un babacool qui est capable de faire le lien entre toutes les valeurs de ce monde. Ça, c'est Israël. Donc Israël, en réalité, c'est la capacité d'être dans l'entité. De savoir que les valeurs d'en haut et les valeurs d'en bas sont toutes les deux des valeurs réelles. Et tu n'as pas le droit de négliger non seulement ta neshama, mais encore moins ton corps. Parce que les gens qui pensent que la neshama c'est l'essentiel et que le corps ça sert à rien, comme malheureusement on peut l'entendre parfois, c'est pas de la Torah, ça, c'est pas de la Torah d'Israël. C'est-à-dire, celui qui a créé la neshama, c'est exactement le même qui a créé le corps. Vayar ki lo yacholo. Donc il voit qu'il ne peut pas. On n'a même pas fait la moitié du cours. Et c'est déjà l'heure de la réclame. Mais je continue juste. Vayar ki lo yacholo. Il voit cet ange, ou cette force qui est en lui. Maintenant vous êtes en train de comprendre un petit peu plus la lecture intérieure. Ki lo yacholo. Il voit qu'il n'arrive pas. Qu'il ne peut pas contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire, vayar ki lo yacholo? Alors, im lo yacholo, et ben lâche. Non. Vayigar behafierecho. Il descend. Les sages nous disent en réalité dans la Kabbalah que l'ange essaye de frapper trois étages. D'abord, il frappe la tête de Yaakov. C'est-à-dire, il empêche Israël d'avoir une marchava nechona. De bonne résolution. Il voit que ça marche pas parce que le juif, il est têtu. Il descend d'un niveau. Il frappe au niveau de ses sentiments, de ses ressentis. C'est-à-dire, il lui fait peur, il lui fait des angoisses. Ça, c'est déjà au niveau des sentiments. Il voit que ça ne marche pas non plus. Parce qu'il est buté. Va yiga bekaf yerechou. Où est-ce qu'il le touche? Dans la partie inférieure de son corps, c'est-à-dire dans tout ce qui va être en réalité piria veridia, l'action, la matière et tout ce qu'il va y avoir. Je fais attention, hein, mais je répète ce que le Rav Frida dit. C'est que les juifs de Koutlaret restent en Koutlaret pour le niveau, justement, qui est bas, qui est au niveau de l'argent. Qu'est-ce que dit le Rav Frida? Et c'est en réalité lié à Kafir Echo, c'est-à-dire la partie basse du corps, bien entendu, est reliée à Yosef. N'oubliez pas. Moralité, il frappe qui? Il frappe Yosef, donc il frappe l'échelle que Yaakov a rêvée. Et il frappe en réalité l'échelle de Jacob, celle qui est nécessaire pour faire le lien entre les mondes. Donc moralité, cet ange de Esav empêche Yaakov de faire dévoiler Dieu sur terre. C'est ça son but. Tout ça en l'empêchant de monter en Eretz Israël. Ça va ensemble. Tout ça pendant la nuit, parce que là-bas il est supérieur, c'est l'exil la nuit. Et que si le jour se lève, c'est déjà la Géoula, donc il ne peut plus rien faire. Donc il travaille pendant qu'il fait encore nuit. Dès que le soleil se lève, dès qu'il fait jour, c'est qu'il a déjà perdu son combat. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le jour s'est déjà levé en 1948. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est que des résurgences, c'est que des vapeurs qui restent. C'est plus du tout ce qu'il y avait avant. Alors certes, nous avons encore mal, parce que le texte nous le dit après. Ve'yakob tsolea. Il sort boiteux de ce combat. Ça veut dire qu'on est encore boiteux de tout ce qu'on a passé. Mais, quelques versets plus loin, va yavo Yaakov Shalem. Un tout petit peu, encore un tout petit peu de patience, Yaakov arrive entier, Ir Shrem Ashrem. Il a fait. Parce que Yaakov n'est pas encore Israël, il n'a pas encore établi la maison d'Israël. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas encore de royauté, ce n'est pas Israël. Donc Yaakov est encore Yaakov, et chaque fois qu'il est dans un état de faiblesse, tu peux lui dire, aujourd'hui, tu as été comme Yaakov. Même s'il est en Israël. Quand tu te plies et tu te rabaisses à chaque fois face aux nations du monde parce que tu as peur de dire que ça t'appartient, c'est un petit Yaakov qui vit en Israël. Tu vis en Israël avec une mentalité de Yaakov. C'est pas que le nom Yaakov est négatif. c'est que Yaakov ne peut pas être seul. Il doit être Yaakov, Israël et Yeshurun. Trois degrés. C'est-à-dire trois Yud. Yaakov, Israël, Yeshurun. Trois Yud, trois fois Yud. Yeshurun, c'est la troisième étape, celle qu'on n'a pas encore vue, qu'on va voir, si Dieu veut, la prochaine fois avec Yosef.
Mais quand il descend en Égypte, il est aussi... Parfois, on l'appelle Israël.
Alors, pourquoi? Parce que c'est en réalité le degré qui se met en place, qui prend conscience de ce qu'il est, et qu'il est maintenant en Égypte. Ça veut dire, quand est-ce qu'on l'appelle en Égypte, Israël? Que lorsque il va mourir, et il se dresse sur le lit, il se dit, ça y est, c'est fini, il ne faut pas rester comme ça. Donc, il y a marqué, à la mita, Israël à la mita.
Vous voulez dire qu'en nous, il y a des anges?
Je veux dire que je vais vous aider. Tous les acteurs de la Torah que vous connaissez, qui sont à l'intérieur de vous. Tous. Vous voulez qu'on commence depuis le début ? Adam Arishon, Chava, Caïn, Hevel, Mathusalem, Methuselah, Esav, Yaakov, Noah, les animaux, les plantes, tout est à l'intérieur de nous. À tel point que les chachamim nous disent à Adam, Olam Katan, nous sommes un petit monstre. C'est-à-dire, tous ces acteurs sont en moi. Donc à chaque fois que vous faites face à un acteur dans la Torah, c'est une partie de vous qui est en train de parler.
Très bien. Alors quand vous dites je suis dans, que Yaakov est dans l'obscurité,
Nahon.
Ça veut dire finalement qu'il a vu clair et qu'il n'est pas dans l'obscurité. C'est une image. En fait, il est toujours dans la...
Il s'est dépassé. Non, dans sa source, il est dans la lumière. Mais de temps en temps, c'est comme nous. Si je gratte à l'intérieur de chacun de nous, nous sommes tous sûrs de la Géoula, nous sommes tous sûrs de notre victoire finale, nous sommes tous sûrs de tout. Mais aujourd'hui, maintenant, t'es angoissé, t'es pas bien. Comment est-ce possible? Pourquoi il y a un décalage entre le toi intérieur? Il a fait. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre le bon intérieur et le vécu. C'est-à-dire entre l'idéal et ce qui est visible devant mes yeux aujourd'hui. Donc je dois faire en sorte de faire en sorte que l'idéal se réalise dans ma matière. Donc faire le lien. Donc éviter tous les problèmes qui m'empêchent de voir ça. Alors on continuera Bezad Hashem sous une autre forme. Je vais essayer de récupérer ce texte pour le ramener un tout petit peu sous une autre forme. C'est le jugement des nations.
C'est à la fin, donc. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il place dans l'histoire le jugement des nations. Il dit, c'est moi qui t'envoie maintenant des messagers pour te juger là-bas.
Déjà il va avec des banotes de canal.
Encore qu'il fait que des banotes, ça va.
Je suis en train de dire aux autres assez souvent. Par rapport à ce que tu m'avais dit sur la mort, qu'il fallait craindre la mort, que j'étais pas normal.
Oui,
parce que si moi j'ai pas peur et tu me dis mais c'est pas normal, c'est mal.
Au contraire.
Non, j'ai dit moi j'ai jamais peur. Tu me dis c'est pas normal, la mort c'est un scandale.
Exactement, ça veut dire que c'est un scandale la mort. Donc elle est bien. Du tout. Au contraire, elle doit pas exister. Donc ça veut dire que j'ai pas peur. Si j'ai peur de la mort, ça veut dire que c'était la victorieuse. J'ai pas peur de la mort, au contraire.
Et du tout, enfin, tout ce passage qui concernait la mort dans Rosh Hashanah.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort...
Et j'ai adoré, j'ai ressenti.
Mais voilà, mais parce que la mort n'existe pas dans le monde. C'est une faute de craindre la mort.
Je veux savoir ça, alors t'as pas peur, toi.
Mais voilà, t'as pas peur.
Donc si je suis pas... Là, je me disais, t'arrives pas.
Non,
alors
on ne peut pas compter.
Donc
il n'y a à peu près... Ah, c'est bien.
Donc parfois on a une angoisse et on n'arrive même pas à savoir pourquoi. Et il faut tout qu'on reconstruise. Je suis content parce que c'est
comme ça.
Pour ressortir de cet état.
C'est tout simplement... un passage où tu vois...
Une angoisse, je ne sais pas trop quoi.
Parce que tu es en train de passer d'un état à l'autre état. Si vous voulez laisser passer de
ce passage.
Mais il ne faut pas avoir peur.
pas avoir peur de la mort, c'est pas ce que tu as compris, mais c'est pas ça du tout. Au contraire. La mort n'existe pas. C'est un leurre, c'est un manque de vie, c'est tout. C'est un manque de vivacité. Merci.
Merci.
J'ai dû le laisser dans la voiture.
Un sac en
plastique. Non, j'avais un sac dans la voiture.
Non, je pense que
le bavardier. Oui, ils ont mis
comme.
C'est vrai, alors parce que je rentre vraiment, je suis tout le temps dans mes cours.
Mais le marron mail, c'est libre, on peut
acheter. Vous l'avez sur internet après.
Ouais. J'ai une question. Pour le souvenir.
C'est un cours qui est très très avancé, très poussé. Donc c'est un petit peu complet. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Oui. Là. Maman, j'ai un sourd, encore, je dois courir maintenant, je suis déjà en retard. Chaque fois, je me mets en retard. Qu'est-ce
que c'est ?
Attendez avec moi. Je lui envoie de temps en temps sur Facebook, parce que comme ça, un dégoût. Même sur le WhatsApp.
Il veut poser des questions. Il se pose des questions.
C'est bien.